RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au Pied de la Lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Alors c'est la rentrée, les livres nous déplacent, nous transportent et nous font vivre ailleurs. Ilan Duran-Cohen nous entraîne dans les années 2030, c'est pas si loin. Son personnage a du mal à vivre dans cette société où tout est régi par les nouvelles lois conformes au discours écologique, à la pensée unique et à l'ère du temps. Un roman drôle, sarcastique et troublant qui nous inquiète et nous fait rire après tout. Le pire n'est jamais certain. Le Petit Polémiste est publié chez Actes Sud. Et puis, comme à son habitude, Jean-Marie Blas de Robles nous dépeint aussi un monde étrange, fait de souvenirs fantasmagoriques, un univers clos, un îlot d'une civilisation autre, fait de petites histoires et de coutumes surprenantes. Les règles de la vie en société sont le reflet inquiet, sans doute, de notre humanité. Ce qu'ici-bas nous sommes est publié chez Ulma.
Au pied de la lettre, Christophe Héning.
Bonjour Ilan Duran-Cohen.
Bonjour.
Vous avez voulu écrire un roman d'anticipation, nous projetant dans un futur imaginaire. Et pourtant, à la lecture de votre livre, on a l'impression que ce que vous nous racontez, c'est un peu le monde d'aujourd'hui et la vie d'après Covid. Vous êtes rattrapé par la réalité ?
Complètement. C'est-à-dire j'ai arrêté d'écrire ce roman, vraiment les dernières corrections, c'était en janvier 2020. Et là, je suis un peu sidéré de voir combien je suis rattrapé par la réalité. Finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'imagination, qu'on invente des choses qui sont là déjà dans l'air et qui... Donc, moi, c'est ma perception des choses, quoi. J'étais sidéré de... Voilà, on parlait de ça tout à l'heure avec Jean-Marie, des statues qui ont des boulonnes, et c'est dans le bouquin, d'une certaine façon. Donc, on est, en fait, tout ce qu'on écrit, c'est là, c'est présent. Donc, ce n'est pas tellement de l'anticipation.
Le temps s'accélère peut-être, on va en parler.
Le temps s'accélère. Et comme je suis terrorisé par la réalité, je voulais faire de l'anticipation. Mais finalement, autant écrire de la réalité puisque l'anticipation nous rattrape.
Mmh, si ça tombe, vous êtes prophète peut-être, hein, c'est peut-être ça aussi. Bonjour Jean-Marie Blas de Robles.
Bonjour.
Votre livre, il est superbe, foisonnant aussi alors d'histoire, hein, puis de situations rocambolesques, mais aussi illustré avec vos propres dessins. Vous illustrez les mésaventures du narrateur. C'est presque un récit dans le récit, les dessins.
Ah, c'est pas vraiment un récit dans le récit, mais ça fonctionne comme un complément du récit. Dans mon esprit, je voulais mettre le lecteur dans ce type d'ouvrage que j'adore, qui est la revue du Tour du Monde, dans laquelle j'ai pratiquement appris à lire dans mon enfance, et où les illustrations disent autre chose que ne dit le texte. En fait, j'ai découvert, c'est la première fois que je fais ça, et je n'en ferai pas une seconde fois, mais j'ai découvert à quel point c'était différent d'écrire en sachant qu'on peut illustrer dans la marge ce qu'on raconte. Donc plus besoin d'écrire dans les détails, je ne sais pas, une oasis, si on peut la dessiner à côté. Donc le texte doit se concentrer sur autre chose que l'image ne dit pas, et l'image dit autre chose et complète ce que le texte ne dit pas. Donc c'est une expérience singulière, mais que j'ai adoré faire.
En tout cas, pour le lecteur, c'est un vrai plaisir d'avoir toujours ces fenêtres qui s'ouvrent là et qui, loin de freiner l'imagination que peut procurer le texte, nous ouvre encore à une autre façon de visualiser, hein, le monde que vous imaginez.
Le bon mot, c'est ces fenêtres. C'est vraiment des ouvertures qui lancent des pistes, qui tracent des chemins, qui font des chemins qui bifurquent, pour reprendre l'expression de Borges, des chemins de traverse qui permettent au lecteur de suivre d'autres histoires qui commencent ou se terminent dans ces marges.
On va en parler tout à l'heure. Des livres, des histoires, et puis au pied de la lettre, il y a aussi une place toute particulière avec la poésie. On retrouvera Stéphane Bataillon, comme chaque semaine, pour un poème pour la route. Alors, l'histoire se déroule bien en France, dans les années 2030. Alain Coulant est polémiste, télévisuel, professionnel. Une belle place, jusqu'au jour où, lors d'un dîner mondain, il lâche une blague vaguement sexiste. Et là, sa carrière est... Et son avenir même est menacé, Ilan Duran-Cohen. C'est ça le point de départ, et tout bascule.
Tout bascule, tout part en vrille. Et moi, je suis un gaffeur un peu professionnel, et je me suis dit, c'est de plus en plus difficile pour les gaffeurs, notre réalité, ce quotidien-là que nous vivons. Donc, c'est vrai qu'heureusement que la littérature et l'écriture est là pour qu'on puisse gaffer et se projeter sur ces personnages qui, je ne sais pas si... Alain Conlang aujourd'hui pourrait vivre, exister, évoluer. Quoi. Il est complètement étouffé par la pensée unique, la bien-pensance, les belles pensées, c'est les bonnes âmes. Donc c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu à la marge de la pensée.
Alors en même temps, il est professionnel de cette marge, puisqu'il est quand même polémiste. Il est payé pour ça.
C'est un petit polémiste médiocre qui a cru se trouver une planque en balançant quelques polémiques qui n'ont finalement pas grand intérêt, mais elles sont là, parce qu'il faut quand même de la polémique en 2030, ou même peut-être aujourd'hui, pour montrer que nous sommes libres, que nous vivons dans une démocratie. Mais ce sont des polémiques contrôlées. Donc lui, voilà, il a cru se trouver une planque en écrivant ces petites polémiques qui plaisent aux jeunes, mais voilà, malheureusement, sa vie dans le privé, sa vraie vie, est plus importante que ses polémiques et ce qu'il dit à la télévision. Donc une phrase mal placée, puis tout part en vrille.
Mmh. Vous écrivez un moment, hein, un mal nécessaire, hein, le polémiste c'est un mal nécessaire, une personne... Personne n'aime quand ça gratte, même si ça fait rire et que ça rapporte. L'homme préférera toujours l'ennui et la stimulation dangereuse. Le polémiste, c'est ça. C'est celui qui vient déranger. Et finalement, on aime bien, mais on n'aime pas trop.
Oui, on aime bien écouter, on aime bien se faire peur. C'est comme un film d'horreur, quoi, un petit peu. On aime voir ça, puis après, on se dit heureusement que ce n'est pas la réalité. Donc là, en 2030, oui, on aura besoin encore de polémistes, mais des polémistes très contrôlés. Donc c'est un exercice d'équilibriste un peu compliqué à faire, mais que lui, là, jusqu'à présent, réussissait, mais là, patatras.
Patatras, et alors il devient quasiment pestiféré, puisque toutes les personnes qui sont avec lui pendant le dîner s'offusquent de cette sortie un peu sexiste.
Sexisme, misogyne, ce qui ne se fait plus du tout, même aujourd'hui. Mais en 2030, ça, j'imagine que ça sera encore pire.
Il y a une police du verbe, presque.
La police de la pensée, du verbe, de l'expression. On est policé. De toute façon, on est lissé. Donc, c'est vrai que c'est un roman qui vit, qui se déroule dans un monde parfait, idéal, où toutes les idées progressistes ont réussi, sont établies. Mais il y aura toujours deux crétins ou un rêveur qui va glisser. Et là, du coup, ça ne sera pas drôle pour lui parce que la glissade va lui faire mal. Quoi.
Mais alors, ce qui est frappant dans votre roman, c'est que, bien sûr, il y a un procès à la clé. Il va être poursuivi en justice. Mais en même temps, c'est tout le monde qui le rejette. C'est la civilisation même qui le met au banc des accusés.
Ben, disons qu'il n'a rien compris à sa réalité, au monde dans lequel il vit. Il a strictement rien compris, donc ça choque tout le monde. Parce que tout le monde pense avoir compris et tout le monde pense être libre dans ce monde-là, qui est finalement un monde plein de carcans et plein de limites. Et lui, finalement, par cette gaffe, va découvrir sa vraie liberté, ce qu'elle vaut. Et de toute façon, on voit bien même aujourd'hui, les mouvements de foule existent. Une pensée, allez hop, tout le monde se dirige vers cette pensée unique et c'est ce qui est étouffant, ce qui est très très, en tout cas angoissant pour le créateur que je suis quand j'écris. Donc oui, c'était aussi un prétexte parce que la situation est quand même assez drôle et je suis toujours très surpris que les gens me disent c'est très angoissant comme roman parce que moi il me fait très rire ce roman.
On rit beaucoup effectivement.
Ouais, j'ai pas mal rigolé en l'écrivant, mais en fait il est plus anxiogène que drôle.
Oui, c'est ce qu'on disait au début, finalement. Il est anxiogène à partir du moment où on s'y retrouve véritablement, où on a l'impression que vous parlez d'aujourd'hui.
Mais c'est ça qui me surprend, parce que je pensais quand même... j'ai eu du mal à le placer en 2030, parce que j'ai passé des après-midi à calculer les années, l'âge des personnages. J'étais complètement perdu. Donc je me suis dit, bon, je vais le faire en 2020. Puis après, non, je ne peux pas le faire en 2020, parce que la réalité n'est pas quand même comme ça. Donc je suis quand même... L'anticipation m'a permis d'écrire quand même une farce, une absurde. Mais finalement, aujourd'hui, quand les gens le lisent, ils trouvent ça anxiogène et drôle, mais anxiogène. Donc, c'est-à-dire, je suis complètement rattrapé par la réalité.
Parlez-nous du frère aussi.
Quoi, du frère ? C'est pas un frère, c'est une sœur d'abord.
Alors, voilà, on ne sait plus comment il faut dire. Donc, c'est ça aussi, c'est cette liberté. Vous expliquez, vous prenez des situations d'aujourd'hui que vous poussez à l'extrême.
Oui.
Voire à l'absurde.
Oui, c'est-à-dire même, je crois, à un moment donné dans le livre, je dis, il est plus facile de faire un changement de sexe que de changer son adresse à la poste. C'est à peu près ça en 2030, peut-être aujourd'hui aussi, encore une fois, il y a cette confusion des époques. Mais le frère veut se réaliser en femme et il entreprend une transition, ce qu'on appelle une transition, un changement de sexe, quoi. Mais... Et là aussi, tout part en vrille parce que les gens réalisent que ils préféraient le frère en homme qu'en femme. Donc même les enfants du frère, ils se doivent d'accepter cette transition, ils se doivent d'accepter cette merveilleuse aventure, cet accomplissement finalement. Mais à l'intérieur, que ça soit la mère, la fille, tout le monde a des doutes et préférait le monde d'avant. En fait, c'est peut-être aussi un livre. Je me dis ça en le relisant, en écoutant et en faisant tous ces radios, c'est que c'est peut-être aussi un livre sur le monde d'avant. Quoi.
C'était mieux avant.
C'était mieux avant, mais sans être mieux avant, parce qu'on ne peut pas, le monde d'avant, ça y est, c'est mort.
Tout à fait.
C'est l'avenir qui compte.
Voilà, de même, Paris, vidé de ses voitures. Alors là aussi, c'est curieux, mais on se retrouve
curieux.
quand vous rendez votre manuscrit, ça a un effet immédiat, effectivement, plus de circulation
bizarre,
dans Paris.
Je vais arrêter d'écrire, finalement.
non, continuez.
Faire de la musique ou faire du dessin,
quand même,
comme Jean-Marie.
Méfiez-vous quand même de ce que vous pouvez dire. Là aussi, enfin, vous expliquez quand même, et là c'est à la fois par la farce, mais c'est très sérieux, comment on peut pousser, je ne vais pas dire à l'absurde, mais quand même pousser toutes les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui jusqu'à se trouver dans une situation risible.
Absurde, une farce. Donc oui, des fois, là j'étais en voiture, donc après avoir rendu mon roman, je ne savais plus comment rentrer chez moi parce que tout était piétonnisé. Et il y avait de la police partout pour m'empêcher d'entrer dans les rues. Donc je me suis dit, je vais dormir ici sur place. C'est absurde, quoi. C'est pas. Je me suis retrouvé au centre de Paris, mais une fois qu'on est au centre, on peut plus aller dans la périphérie.
En sortir.
Finalement, c'est la périphérie qui est intéressante, c'est pas le centre, quoi. Donc, mais on est bloqué au centre. Donc.
Dans votre livre, on a l'impression. Enfin, non, c'est pas l'impression, c'est certain. C'est que cette société, elle est organisée comme si le bonheur était accessible par la loi. Est-ce que c'est un livre de révolte aussi ?
C'est ce qu'on m'a dit, mais je pense pas. Non,
non
on m'a dit que c'était.
Je le dis pas pour vous.
Non, mais c'est vrai que des lois, toujours des lois supplémentaires, on s'y perd. Et est-ce que le travail du député est de pondre des lois tout le temps, ou bien plus au contraire d'alléger nos vies, de les rendre plus lisibles et plus vivables Je sais pas, donc c'est pas un roman de désobéissance civile comme j'ai pu le lire dans des critiques, mais ça questionne quoi. En fait, c'est un roman sur la liberté. Qu'est-ce qu'est notre liberté? Qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et finalement, on la confie à nos heureux et vaillants députés qui nous votent des trucs qui correspondent pas forcément à notre réalité personnelle, quoi. Donc, non, voilà.
C'est un monde abouti, parce qu'on voit aussi les écolos ont été entendus, les anti...
Tout le monde est entendu.
La défense des animaux,
oui.
Tout le monde... Il n'y a plus de combat à mener, alors.
Il n'y a plus... C'est ça, en fait, en 2030, il n'y aura plus de combat à mener. Tout est accepté. Et donc, on se retournera contre ceux qui, d'un seul coup, dévient de ce monde parfait. Or, est-ce que l'être humain peut vivre dans un monde parfait? Est-ce que c'est sa vocation de vivre dans un monde parfait, complètement figé? Je pense pas. Je l'espère pas. Quoi. Il faut des imperfections et du flou, de la contradiction dans le monde. Et c'est vrai que c'est un monde sans contradiction. Et c'est ce qui était assez plaisant à écrire, en fait, de placer ce rêveur, ce type un peu, ce petit polémiste dans un monde parfait qui ne souffre plus de la contradiction et du conflit. Or, c'est nécessaire, il me semble, quand même.
C'est triste sans...
Non, ben, je vois à votre tête, oui. c'est triste. Le monde n'est pas fait pour les cancres.
Voilà. Et, mais en plus, il sort donc des sentiers battus, il est borderline un peu, ce petit polémiste, mais ça rejaillit sur les autres. Expliquez-nous ce mapping, la façon dont, finalement, son attitude à lui va... dégrader, c'est ça, le mapping des autres?
Le mapping, ben, en fait, moi, je pensais avoir été brillant et avoir inventé quelque chose, mais qui existe, parce qu'après, en fait, pendant l'écriture, une fois que j'ai rendu mon bouquin, j'ai vu que la Chine avait un mapping aussi. C'est un crédit social, une évaluation des gens.
Des comportements.
Quoi, voilà, tout le monde est filmé. Donc, moi, j'ai poussé, c'est vrai, le bouchon un peu plus loin, c'est que... par le big data, aujourd'hui, on est tous analysés, on est nos faits, nos gestes, quasi nos pensées. Et donc, on est noté, il y a une notation citoyenne, mais qui existe aujourd'hui en Chine. Hein. Donc, finalement, je n'ai rien inventé, malheureusement. Et donc, pour être un bon citoyen, il faut être dans le vert. Et quand on est mauvais, on est dans le rouge. Et malheureusement, et dans l'orange, c'est un peu suspect. Donc malheureusement, quand on a un membre de la famille qui passe au rouge, bah, tout le monde, un petit peu, le mapping de chacun se dégrade, quoi. Parce que c'est pour eux, on influe sur la vie des autres, et c'est normal.
C'est pratiquement le seul lien qui existe, enfin c'est des liens qui sont dégradés malgré tout.
Oui, c'est pour ça qu'on doit tous être parfaits, il n'y a aucune tolérance à l'erreur, quoi.
Ouais, bien et sûr. Se méfier des autres.
La pensée unique.
Il ne faut même jamais se moquer, ne pas prendre le risque d'une amende pour AVG, agression verbale gratuite. Ça vous fait rire?
Oui, bah, bon, ça m'a fait rire d'écrire ce livre. J'étais un peu terrorisé aussi, mais bon, ça, oui. Même l'insulte, voilà, on ne peut pas insulter. Même aujourd'hui, on ne peut plus insulter. On doit être toujours dans un respect, une bienveillance obligatoire. Mais est-ce que l'homme peut être toujours bienveillant, toujours respectueux, vertueux? Moi, personnellement, je ne le pense pas. C'est étouffant. L'homme a besoin d'une soupape, quoi. Alors, quelles seront ces soupapes?
C'est un peu la question que vous posez.
Le rêve, et encore, le rêve sera contrôlé. Donc, je ne veux pas vous effrayer. Hein, c'est pas, je ne suis pas prophète. Hein,
vous dites quand même, mentir est la seule liberté qui nous reste.
Voilà. Tant qu'on n'est pas débusqué.
Oui, c'est ça. Il faut bien cacher son
mensonge. Il faut bien savoir mentir.
Et on respire mieux aussi, mais on s'ennuie.
C'est ça. Moi, je...
c'est le risque.
Bah, c'est le risque. De toute façon, ça devient... le monde parfait, d'accord, mais après, l'environnement parfait. Alors, je sais que tout le monde... c'est le but de chacun aujourd'hui, et c'est un but quasi obligatoire. Puisque quand on ne fait pas de vélo, on est un salaud. Donc, si on prend sa bagnole, on devient monstrueux. Donc, c'est... voilà, on risque quand même d'aller vers l'ennui. Mais un heureux ennui, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aimais me balader dans Paris avec ma voiture.
C'est mal vu.
Mais c'est foutu. C'est fini.
On n'a plus le droit. Ou presque. Vous préférez être un homme libre dans un monde pollué qu'un esclave respirant l'air pur. Est-ce qu'on a encore le choix?
Non, on n'a plus le choix, c'est fini. Nous sommes dans le monde d'après, là. Je pense que... Et ça l'a prouvé. Bon, les dernières élections municipales ont prouvé que l'écologie a gagné. Et puis finalement, tant mieux peut-être pour nos poumons. Alors, tant mieux pour nos poumons, mais pour notre tête, je pense qu'on a perdu quelque chose quand même.
Perdu un peu de liberté.
Un peu de liberté. Je ne veux pas dire que l'écologie est liberticide, mais on a perdu un peu d'évasion, de liberté de rêver, puisque tout est complètement codifié, tout est nettoyé, lissé. Donc, mais pour notre bien, donc tout va bien.
Il est attachant quand même, ce petit polémiste.
Merci, oui, il est attachant. Parce qu'on... Puis en même temps, c'est un roman où il va découvrir sa valeur, sa vie. Il va grandir par cette aventure, par cette gaffe qu'il a faite. Maintenant, moi, je fais gaffe, je fais plus de gaffe, quoi. Je fais très attention à ce que je dis, parce que l'écriture quand même du roman...
Vous soignez votre
mapping. Je pense qu'il faut le soigner, oui.
Jean-Marie Blas de Robles, vous avez lu Le Petit Polémiste. Est-ce que vous avez ri ou est-ce que vous avez eu peur?
Les deux, mon capitaine. J'ai d'abord apprécié l'humour décalé de ce monde qui est déjà le nôtre. avec une laïcité obligatoire, Marseille transformée en territoire autonome pour musulmans, le 17e, nouveau ghetto, où on s'amuse là pour le coup, contrairement...
On s'amuse dans les ghettos mais chez
dans,
moi,
uniquement
même
dans
à
les,
Marseille ou
même
ici.
Même dans les ghettos, etc., etc. Donc il y a une, comment dire, un passage à la limite... Hein, d'un certain nombre de choses qui existent déjà en germe ou complètement. Et puis là où ça bascule et où ça devient réellement anxiogène, c'est quand on prend conscience, d'une part, qu'on est dans quelque chose qui ressemble au procès de Kafka, c'est-à-dire que on est broyé par une machinerie judiciaire, par des procès interminables, on ne sait pas de quoi on est accusé, on sait qu'on ne gagne jamais un procès, on sait qu'on a un procès, si on donne un coup de pied à un chien qui est venu vous mordre, c'est fini, vous êtes mort pour des années de procédure.
Ah, parce que dans ce monde-là, on n'oublie rien.
On n'oublie rien, tout est... Et puis c'est un monde quand même de collabos, on enlève le mot de collabos, dans le dictionnaire de l'Académie française, parce que la délation maintenant est bien vue. Il faut vite dénoncer sur son téléphone le type qu'on a vu fumer une cigarette ou manger de la viande ou s'entiquer ou boire un verre d'alcool s'entiquer, etc., etc. C'est un monde qui est vraiment proche de celui de la collaboration, qui fait extrêmement peur et dont on s'aperçoit qu'il est tout près d'être le nôtre. Alors, il reste encore, bien sûr, de la marge, parce qu'on n'est pas encore puni si on mange de la viande ou une rondelle de saucisson. Mais on sent que c'est plus
de
très
moins
loin.
En bien,
on sent que c'est plus très loin, quand même, que la menace plane. Là où on rit jaune.
Mmh. Ilan Duran-Cohen, est-ce qu'il y a justement une de ces... interdiction ou ces évolutions que vous auriez eu envie de mettre dans le livre et que vous n'avez pas osé en disant non, je peux pas aller jusque là quand même. De cette
je pense que j'ai tout imaginé, mais encore une fois, je suis rattrapé par la réalité. Non, toutes les interdictions. Je pense, franchement, j'ai mis le paquet. J'étais épuisé d'imaginer toutes ces interdictions.
Ah vous êtes tous les deux pleins d'imagination. Hein. On a...
Oui. Bon, Jean-Marie, il est beaucoup plus en avance que moi, quoi, sur l'imagination. J'étais fasciné par son imagination et son livre, quoi, quand même.
Vous êtes aussi réalisateur. Est-ce que ça pourrait faire un bon film, le Petit Polémiste?
On me dit, mais généralement, j'essaye de séparer mes deux activités et de ne pas adapter mes livres à l'écran. Je sais pas, j'ai pas poussé le narcissisme à ce point, mais il faudrait que je le fasse, puisque c'est vrai que c'est assez visuel aussi, le Petit Polémiste. Donc,
Si vous ne le faites pas, ce sera quelqu'un d'autre qui le
fera.
Oui,
avec grand plaisir. J'adorerais que quelqu'un le fasse.
On va écouter juste un extrait de ce Petit Polémiste qui se promène dans les rues de Paris.
Être coupable de sexisme n'est pas rattrapable, soyons lucides. Sinon, à quoi auraient servi ces formidables luttes d'émancipation, comme dirait ma mère, ces révolutions héroïques pour l'égalité des sexes? Être coupable est une condamnation à vie. Plus rien ne s'efface. Tout reste archivé pour l'éternité. Tout est aspiré, étudié, déduit, projeté. Rien ne se perd. Les données sont conservées, jamais recyclées. On a plus de clémence pour nos poubelles que pour nos erreurs et nos fautes. Je traverse Paris à pied. Après une heure de marche, pendant laquelle je me suis forcée à traverser au passage pour piétons, en respectant scrupuleusement les signaux verts ou rouges, j'arrive enfin place de l'Étoile, et je me dirige à bout de souffle vers l'avenue de Villiers. Je suis épuisée. J'ai soif. L'eau est si chère. Je ne trouve aucune fontaine publique en état de fonctionnement. Pourvu qu'il pleuve, mais les pluies sont si rares. Une vache errante a failli m'écraser. Depuis la loi sur le respect du libre arbitre animal, elles se baladent à leur guise dans Paris. Seuls les chiens sauvages ont le droit de les mordre. Les vieilles dames ne sortent plus pour effectuer leur promenade quotidienne, voir du monde, s'élargir l'horizon, prendre l'air, tout simplement. Trop dangereux. On préfère le bien-être des chiens à celui de nos vieillards qui ont fait tant de mal à la planète.
Quelquefois, si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure.
Eh oui, femme, je vous aime. Julien Clerc, c'était en 1982, au pied de la lettre, avec aujourd'hui Jean-Marie Blas de Robles pour Ce qu'ici-bas nous sommes, aux éditions Zulma, et Ilan Duran-Cohen pour Le Petit Polémiste, chez Actes Sud.
Au pied de la lettre, RCF.
Jean-Marie Blas de Robles, on vient tout de suite à vous, mais simplement, Ilan Duran-Cohen, Julien Clerc, c'est dans votre livre aussi. C'est quoi ces réhabilités? C'est les militants qui chantent ça. Hein,
c'est les militants en bas de l'immeuble de notre petit polémiste qui chante cet hymne à la femme. Et le pauvre, il a juste fait une gaffe, mais bon, il est asséné de toutes parts par cet hymne, ces chants féministes, parce que femme, je vous aime, ça va être l'hymne féministe de 2030, et ça l'est déjà, hein, parce qu'on le voit même dans toutes les pubs, etc. Mais c'est drôle d'ailleurs de l'entendre mise en scène ici, alors qu'on l'a imaginé dans les pages.
Dans votre je vous en remercie. Atelier d'écriture, oui. Vous nous raconterez peut-être comment vous écrivez si on a le temps tout à l'heure. Alors, installé dans une clinique de luxe au Chili, Augustin Harbour se remémore son expédition dans le sud libyen une quarantaine d'années auparavant et la découverte d'une oasis où s'organise une société étrange. Jean-Marie Blas de Robles.
Oui, il est à la recherche. C'est un anthropologue. D'abord, dans sa jeunesse, il est parti dans les années 80 dans le sud libyen à la recherche d'une ville mythique, Garama, la ville des Garamantes. Et voilà qu'il tombe sur une oasis avec une ville, une médina que personne ne connaît, qui s'appelle Zindan. Et comme il est anthropologue, il entreprend de la décrire comme le ferait un anthropologue, en disant, bon voilà, cette ville m'apparaît extrêmement bizarre, ses mœurs extrêmement étranges. Je n'y comprends rien, ça ne correspond à rien de ce que je connais, mais je vais décrire ça scientifiquement, vraiment comme je le ferais si j'arrivais chez les Nambikwara, vu que son professeur a été Lévi-Strauss. Et donc il le fait, il tient ses carnets. Ça, c'est un voyage qu'il a fait en 1982. Mais on le retrouve au moment où il écrit ses carnets. Il ne les a pas écrits depuis 1982. Et là, il a 70 ans. Il est dans cette clinique de luxe, traité pour des troubles neurologiques qu'on imagine neurologiques. Il a des compagnons de clinique. Et ça fait partie de sa thérapie. Son psychiatre, le professeur Binswanger, lui a demandé de se remémorer ce voyage passé dans sa jeunesse pour mettre un peu d'ordre dans sa mémoire et l'aider à refaire surface.
À reprendre pied presque dans la réalité.
À reprendre pied dans
son histoire.
Dans la réalité, ce qui est bien sûr un clin d'œil, je le mentionne dès le début du livre,
exactement,
à une histoire vraie qui est celle professeur d'esthétique Abby Warburg, qui était actif dans les années 20 et qui, à la suite de la guerre de 14 et de la montée de l'antisémitisme, fait une crise psychotique et est interné dans une clinique pendant 5 ans, alors que c'est un brillant
chercheur,
philosophe, brillant historien de l'art. Et il est interné pendant 5 ans avec, comme voisin de luxe, patient de luxe, avec Nijinsky, le danseur, avec le peintre néo-réaliste Kirchner, avec la féministe Anna Pappenheim, dont Freud traitera le cas sous le nom de Anna O. Et ce Abby Warburg va proposer au bout de 4 ans, ou 4-5 ans d'internement à ses psychiatres de leur prouver qu'il a retrouvé sa lucidité en faisant une conférence et en monnayant bien sûr sa liberté à l'issue de la conférence si sa conférence est raisonnable. Et cette conférence, elle a eu lieu, il a fait une conférence sur un voyage qu'il avait fait 40 ans auparavant chez les Indiens Hopi. Il l'a fait, c'est une superbe conférence qu'on a encore aujourd'hui qui s'appelle le rituel du serpent. Donc ça a réellement existé et je transpose...
Vous êtes parti de cette histoire-là et vous avez écrit votre rituel finalement.
Et j'ai écrit les deux, j'ai écrit à la fois j'ai imaginé du voyage dans la folie de ce personnage et son retour à la lucidité, d'où ce dédoublement en permanence entre les deux personnages principaux. Il y en a un qui s'appelle Augustin, qui écrit Augustin Harbour, H-A-R-B-O-U-R. Et puis on a Abby, on ne connaît pas son nom, mais on fait la référence avec Warburg. Donc ouais. Abby et Augustin, qui est l'un, qui est l'autre. Ce sont les deux facettes d'une même identité.
Alors, vous décrivez alors avec vos dessins, déjà, on en a parlé, mais aussi avec une précision anthropologique de ce qui se passe dans cette oasis. C'est quoi ? C'est une sorte de tour de Babel réconcilié, presque. Tout le monde s'entend.
C'est la tour de Babel d'avant la chute. C'est-à-dire que le langage est unique et commun. On est avant la dispersion des langues qui se produit après la chute de Babel. C'est aussi un clin d'œil. Il y a un livre que j'ai écrit auparavant qui s'appelle « Les greniers de Babel » où là, on est après la dispersion des langues et où les gens s'escriment à trouver un langage...
Commun,
un langage universel, donc c'est la continuation. Donc on est dans un univers babélien et on est dans un univers où, de la même façon que dans le livre de Ilan, la planète est devenue Dieu. Dieu est là, c'est la planète, tout le monde en est sûr. C'est elle qui gouverne tout, c'est elle qu'il faut révérer. Dans cette oasis, on s'aperçoit qu'il y a un chaman et sa vestale, sa houri qui l'aide, qui fonctionne réellement comme un dieu. C'est un dieu présent, mais un dieu qui est incapable de modifier sa création.
Ouais, vous le dites, un dieu oisif et retiré des affaires du monde.
Exactement, un deus ociosus, comme on disait en latin chez les Romains. Donc il a créé son monde une seule fois, et c'est terminé, c'est plus la peine de le prier, il est incapable d'exaucer vos prières, ce qui donne lieu à toutes sortes de cultes annexes et de superstitions, parce que les gens ont besoin de pas simplement d'être apaisés par la présence du Dieu. Certes, on est bien tout près de Dieu, mais quand même, est-ce que ma fille va trouver un bon mari? Dieu peut pas répondre à ça. Mais en revanche, il y a des devins, des devineresses.
Tout un syncrétisme certaines religions qu'on reconnaît.
Exactement. Parce qu'on s'aperçoit que ce Dieu, en fait, fonctionne comme un trou noir. Sa puissance spirituelle est telle qu'il a attiré non seulement toute la matière dans cette ville, mais il a attiré la totalité des civilisations, la totalité des religions. Et si on passe dans un certain cercle autour de cette oasis, on est attiré à l'intérieur, comme l'a été Augustin. Et on peut y être attiré non seulement de n'importe où, mais de n'importe quand. C'est-à-dire qu'on peut y arriver directement du XVIIe siècle ou même du futur.
Parce qu'il y a une population stable, quand il y en a un qui meurt, il peut avoir une naissance ou quelqu'un qui arrive de l'extérieur.
Exactement, il y a une espèce d'équilibre qui s'est fait. Et dès qu'il y a un décès, quelqu'un arrive. On ne sait pas d'où il arrive, mais il prend la place de cette personne.
Et alors là, la société s'organise. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas vraiment celle de Ilan Duran-Cohen, mais il y a des règles très précises. Vous vous êtes amusé malgré tout à tous ces rituels. Comment vous avez construit un peu ce monde à part?
Ben, je les ai inventés comme on fait lorsqu'on invente. Je ne pense pas qu'on puisse inventer à partir de rien. Donc, on fait du collage. Du collage d'anecdotes, du collage de choses qui ont réellement existé en anthropologie. Donc je me suis quand même avalé, bon j'avais lu là-dessus auparavant,
oui,
mais je me suis quand même avalé
de ce genre.
Les 3000 pages du dictionnaire d'anthropologie et de mythologie de Yann Le Kellec qui est paru ces 5 dernières années. Et donc, bon... Tout est vrai dans ce livre. Il y a des villes qui fonctionnent comme ça, avec 4 clans qui sont réunis. La ville de Gadames, par exemple,
en Libye. Les mangeurs de crevettes, par exemple, les Amazones.
Le clan des mangeurs de crevettes, il existait dans l'Antiquité. Il est raconté par Atacartide, l'écrivain grec. Le clan des trayeurs de chiens, il est raconté dans un texte de Ctésias dans l'Antiquité.
Ne nous dites pas ça, nous, on croyait que vous aviez tout inventé.
Et il y a d'autres choses qui sont inventées.
Quand
mais
même.
Voilà, c'est ce mélange qui fait, l'invention.
Avec une écriture aussi très, je veux dire, très descriptive, très objective. Hein. Vous écrivez « Ne s'étonner de rien, se contenter d'enregistrer les faits sans préjuger de leur signification ». C'est vraiment la façon dont vous nous racontez ce monde. Vous décrivez les mœurs sexuelles, la façon de manger, le rapport avec les animaux, la terre.
Mais là, c'est le processus intellectuel d'Augustin, celui qui écrit et qui raconte son voyage et qui veut convaincre quand même son psychiatre de son sérieux. Donc, bon, il essaye de mettre toutes les chances de son côté et de dire, voilà, j'étais dans cette situation-là. Normalement, véritable anthropologue, quand il arrive quelque part, il ne faut surtout pas qu'il se mette à juger ou à préjuger ou à avoir des a priori sur ce qu'il voit. Il ne faut s'étonner de rien. Il faut prendre en compte les choses, essayer de les comprendre et en rendre compte le plus objectivement possible. Donc ça, c'est vraiment la tâche qu'il s'était donnée jeune en le faisant. Et c'est la tâche qu'il continue à se donner vieux en écrivant ce récit pour le soumettre au directeur de la clinique qui doit le sauver ou pas de son enfermement.
Il y a ce travail sur la mémoire aussi, sur la transcription. Puisqu'effectivement, vous l'avez dit, il y a un temps entre cette observation de l'oasis et puis le moment de l'écriture. Vous jouez aussi, hein, à chaque chapitre, on passe de l'un à l'autre. Là aussi, c'est un exercice.
C'est aussi ça fait partie d'une des trames du livre qui tourne autour de la notion de mnémosyne, de la mémoire. Mnémosyne, c'était aussi le grand projet de Abby Warburg, qui était d'essayer de faire une mémoire visuelle, esthétique, de tous les traumas qui ont pu perturber l'humanité depuis l'ère préhistorique jusqu'à aujourd'hui. Il essaye de trouver une ligne de continuité esthétique à travers ces représentations. Et il avait en vue de faire un atlas. Il est mort juste avant, mais on a quand même le bâti de cette œuvre-là. qu'il appelait mnémosyner la mémoire. Mmh. Donc je joue avec ça, je me sers de cet atlas pour inventer certaines scènes. Il y a aussi une mémoire qui fonctionne dans la ville qui s'appelle l'encyclopédie léthargique, l'Encyclopédia léthargica, qui est une mémoire commune, non écrite, qui est simplement détenue sur des pots qui sont striés dans l'argile comme le seraient des micro-sillons, comme l'avait imaginé en fait Georges Charpak avant de mourir, quand il essayait de voir si on ne pouvait pas entendre des sons en lisant des poteries égyptiennes, en les passant au laser, pour voir si un son ne s'était pas enregistré au moment où le potier tournait son argile. Là, c'est fait systématiquement. Quand on veut se souvenir de quelque chose, on va chez le potier et on s'enregistre et on repart avec sa poterie. Mmh. Et ensuite, ce sont des aèdes, des rhapsodes qui sont doués d'un talent spécial, qui arrivent simplement avec leurs doigts, voire leurs coudes, en caressant le pot, à restituer cette mémoire-là. Il y a aussi on se tatoue beaucoup dans cette médina.
Oui, c'est un marqueur très, très précis, très
voilà,
usité.
Mais il y a des signes parleurs qui sont des QR codes. Mmh. Et bien sûr, tous ces QR codes, je les ai fabriqués, ils sont fonctionnels. Et le lecteur peut flasher les QR codes sur les tatouages qui apparaissent sur les 300 dessins de mon livre. Et il va lire d'autres histoires, rentrer dans des poèmes de plusieurs pages, accéder à des vidéos qui rétablissent les anamorphoses, accéder à un générateur infini de nécrologie que vous pouvez lire du début du Big Bang jusqu'à l'éclatement du soleil. Vous n'aurez jamais épuisé le nombre de possibilités de ces petites biographies. Donc voilà, ça joue sur
tout cet univers
de la mémoire.
Ouais, n'ouvrez pas le livre de Jean-Marie Blas de Robles, vous n'allez pas en sortir. Ilan Duran-Cohen, vous avez lu Ce qu'ici-bas nous sommes, un très beau titre déjà. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Mais j'étais fasciné. D'abord, j'ai trouvé mon maître dans l'imagination. Moi, je pensais avoir l'imagination, mais là, j'ai trouvé vraiment le master absolu. Non, c'est fascinant.
Imaginaire.
C'est un livre absolument fascinant. Et l'écriture de Jean-Marie Blas de Robles, elle est quand même fascinante. Et bien sûr, il y a les dessins. Et je pense que c'est un livre, en fait, dans lequel il faut se laisser perdre. Il faut se perdre. C'est comme un labyrinthe. On regarde un dessin, puis après on oublie à quel moment de la lecture on a regardé le dessin. Et donc il faut retrouver sa phrase. Et puis voilà. Enfin, c'est vraiment une sensation extraordinaire de lecture, ce livre. Et pour moi qui écris, j'ai l'impression d'écrire assez classiquement. Là, j'ai trouvé cette façon d'écrire avec. Et Jean-Marie m'a dit tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, que c'était lui qui faisait les dessins. J'étais encore plus fasciné parce qu'ils sont absolument extraordinaires, ces dessins.
Avec toujours aussi, simplement même les légendes qui ouvrent encore en plus du dessin.
Et là, je viens d'apprendre, en fait, vraiment, c'est un puits sans fond parce que je viens d'apprendre maintenant que j'ai pas essayé les QR codes, mais je découvre avec vous qu'il fallait y aller, quoi. Mm-hmm. Et qu'il y a quelque chose derrière. Donc c'est titanesque, quand même, comme travail. Non, c'est fascinant même dans l'expression de la fiction et les personnages et ce mélange des temps en plus. Il y a un mélange des temps en fait. Il y en a qui viennent
des temps, des cultures.
Voilà. Auguste est un très beau personnage, mais Adélaïde encore plus. J'ai adoré cette femme qui est vraiment à laquelle on s'attache. Et puis vous la dessinez.
Et qui arrive de l'époque victorienne.
C'est fabuleux. Faut vraiment se laisser porter et se perdre dans le livre et se fondre. Dans les phrases, dans les dessins, dans tout cet univers, parce que c'est
très
assez plaisant,
aussi.
Très drôle. Très un peu terrifiant quand même aussi.
C'est
genre il y a du
vertigineux.
C'est vertigineux. C'est en même temps poétique, non ? Bravo quoi.
Merci beaucoup.
Bon, on va écouter un extrait lu comme l'extrait précédent par Stéphanie Gallet.
Comme elle l'avait prédit, je ne pus m'empêcher de tester toutes les possibilités de quitter la ville avant d'admettre l'incontestable. Zindan était une prison. Ce qu'est le désespoir, vous l'ignorez encore, vous l'apprendrez. Posté chaque jour à un endroit différent, j'entrepris de dessiner avec méthode le paysage qui m'entourait. Quand bien même ma boussole avait perdu le nord, elle permettait toujours de mesurer les angles. J'ai calculé au mieux, puis crayonné, feuille après feuille, une vue à 360 degrés des murs de ma prison. Durant tout ce travail, je ne cessais de ruminer. Une phrase de Strabon me revenait en boucle. « En Libye, avait-il écrit dans sa géographie, il est une cité nommée Dionysopolis que le voyageur, l'ayant découverte un jour, ne pourra jamais retrouver une seconde fois. N'étais-je pas ce voyageur? Comment revenir dans une ville dont il est impossible de s'évader ?»
Strange World de Kay, c'était en 1995 au pied de la lettre avec Jean-Marie Blas de Robles pour Ce qui si bas nous sommes aux éditions Zulma et Ilan Duran-Cohen pour Le Petit Polémiste chez Actes Sud.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Et si on donnait une seconde chance au roman paru durant le premier trimestre 2020, des livres sortis en plein confinement alors que les librairies étaient fermées, des romans qu'on ne peut malgré tout pas passer à la trappe. Bonjour Christine Demazière.
Bonjour.
Vous avez écrit La route des Balkans hein, chez Sabine Vespizer, un roman qui est sorti dans cette période du premier semestre.
Oui, oui, il devait sortir en avril, il a été un peu confiné, il a fini par sortir début juin.
Début juin, mais du coup il n'est pas dans la rentrée littéraire, sauf que vous allez nous en parler et peut-être le faire revenir dans la course. Alors, La route des Balkans, ça parle de quoi? Ça parle d'un sujet d'actualité, on vous écoute.
Écoutez, il y a 5 ans, en 2015, il y a eu ce qu'on appelait la crise des réfugiés. Vous vous souvenez peut-être de tous ces réfugiés syriens, irakiens, qui arrivaient en Europe, fuyant des situations de guerre. Et je suis partie, en fait, cette situation m'a profondément bouleversée. Je suis partie d'un fait divers qui était celui d'un camion frigorifique qui avait été retrouvé fin août 2015 avec 71 personnes asphyxiées à l'intérieur. Et j'ai souhaité me mettre dans la peau en fait de deux de ces réfugiés, une jeune syrienne, Asma, et un jeune afghan, Tamim, qui ont des longues routes derrière eux et qui vont parcourir toute cette route des Balkans, certains n'arrivant pas à leur terme, d'autres y arrivant, et de l'autre côté une famille allemande. En fait, avec des réminiscences de l'histoire allemande qui a connu aussi pas mal d'épisodes d'exil et de réfugiés.
Ça, c'est vraiment... Vous parlez aussi hein, dans votre livre un peu justement de cette mobilisation en Allemagne, notamment engagée par la chancelière Angela Merkel. Hein. Nous y arriverons, c'est un peu sa déclaration et cette manière de s'investir pour l'accueil des migrants.
Oui. C'est vrai qu'on a retenu ces trois mots, « Wir schaffen das », qu'elle a prononcé fin août 2015, qui ont beaucoup frappé, parce que l'Allemagne a accueilli pas loin d'un million de personnes à ce moment-là, pendant cette année 2015. Et ça a beaucoup étonné aussi l'opinion publique mondiale de voir tous ces Allemands, majorité d'Allemands, qui accueillaient à bras ouverts ces exilés, ces malheureux, ces damnés de la terre. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'examiner à la fois le processus de la grande histoire, la décision politique qui est toujours difficile, qui est toujours le choix entre des solutions compliquées et des destinées personnelles. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, cette décision humanitaire, de dire on va accueillir ces réfugiés qui sont à ce moment-là, ils étaient bloqués en Hongrie, dans la gare de Budapest, une grande partie d'entre eux, avant d'être envoyés par centaines de cars vers la frontière autrichienne. Il y a eu quelques heures d'ultimatum où la chancelière allemande, avec le chancelier autrichien, ont dû prendre une décision. Est-ce qu'on ferme la frontière ou est-ce qu'on l'ouvre? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est l'histoire un peu politique, mais derrière, il y a des hommes et des femmes. Et c'est toujours important de pouvoir en parler vraiment de manière extrêmement personnelle et humaine.
Voilà, et puis dans votre livre, hein, donc, vous le disiez, entre Asma et Tamim, il y a aussi un cahier rouge, la trace aussi de cette errance.
Oui, Asma est une jeune fille de 17 ans, une jeune Syrienne qui se rêve d'être poète, et qui l'est d'ailleurs, et effectivement elle écrit. Et ce sera quelque sorte l'héritage de cette jeune fille pour ce jeune Afghan dont ils se sont croisés, ils ne se connaissent pas vraiment, mais ils se croisent et c'est lui qui va recueillir ce fameux cahier rouge qui contient tous les rêves d'une jeune fille.
Merci Christine Demazière. Allez, La route des Balkans, on le remet dans les livres de la rentrée. C'est publié chez Sabine Vespizer. Merci beaucoup et on vous laisse poursuivre l'écriture du livre suivant.
Au pied de la lettre, RCF.
C'est maintenant l'instant poésie au pied de la lettre avec Stéphane Bataillon. Bonjour Stéphane.
Bonjour Christophe.
Vous êtes journaliste, je le rappelle, vous êtes journaliste à l'hebdo La Croix, vous êtes poète aussi, et puis vous allez nous ouvrir chaque semaine cette petite fenêtre vers la poésie. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une revue.
Je vais vous emmener en promenade avec un poème d'Anne Brosseau qui est tiré du dernier numéro de la revue Contre-Allée. C'est une revue de poésie contemporaine qui a déjà quelques années, mais qui inaugure en cette rentrée une nouvelle formule très élégante, petit fascicule de 52 pages qui ne coûte que 5 € et qui permet de découvrir 6 poètes contemporains, des nouvelles voix, des petits entretiens, des petites critiques. Une revue très très sympathique, Contre-Allée. Et donc ce poème fait partie d'un ensemble qui s'appelle D'un jardin par Anne Brosseau.
On vous écoute.
D'un jardin de pierre, car il ne faudrait pas oublier les pierres. Écoutez celui qui les connaît, qui vous dira qu'elles vivent, qu'elles respirent. C'est une autre science qu'on loge au creux de la paume, sur le rebord d'une fenêtre, d'un muret, au fond de la poche. Comme les étoiles, on ne doute pas qu'il s'en trouve une à soi.
Voilà, une belle balade emportée par la poésie. Vous allez peut-être rappeler les références pour ceux qui veulent retrouver cette revue.
Alors, c'est la revue. Contre-Allée, le numéro 41. Vous pouvez aller sur leur site, contre-allée, en un seul mot, .blogspot.com.
Merci Stéphane Bataillon. La vie de la poésie, c'est aussi sur RCF. Et puis on va poursuivre aussi avec la littérature et mes invités. J'ai envie, alors on l'a dit tout à l'heure, hein, on se projette dans des mondes étranges et à découvrir, mais vous êtes l'un et l'autre visionnaire. Si je reprends bien vos livres, Jean-Marie Blas de Robles, un coronavirus transmis par les camélidés, ai-je vérifié depuis, qui pouvait être mortel et se caractériser par de la fièvre, une toux irrépressible et des difficultés respiratoires. C'est la page 81 de votre roman qui était écrit bien avant l'épidémie.
Bien avant, bien sûr, 2 ou 3 ans avant. Mais comme quoi, il faut se méfier comme de la peste de ce qu'on écrit. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Et je crois que je vais écrire que sur des
choses
paradisiaques, désormais, plus parler de quoi que ce soit.
Ne parlez plus de malheur, mais entraînez-nous, effectivement.
C'est un peu effrayant de se retrouver, oui, à... Bon, c'est pas non plus
Oui, on a été tous surpris, mais c'est pas une nouveauté pour ceux qui travaillent sur ces questions-là.
C'est ce que j'allais dire. Il y avait déjà eu le SRAS, il y a eu d'autres Corona avant, donc c'était un peu normal que j'en parle.
Que vous le trouviez.
Ça ne fait pas pour autant de ce livre
un livre visionnaire.
Un livre visionnaire écrit par un Nostradamus.
Comment vous avez vécu
un dangereux Nostradamus.
Comment vous avez vécu ce confinement?
Tranquillement, j'ai la chance d'avoir un grand appartement et l'accès à un petit jardin. Je suis resté à Orléans tout seul avec mon fils.
Ilan Duran-Cohen, bah vous aussi. Hein. J'éternue, les voyageurs me regardent, le petit polémiste est dans le train. J'éternue, les voyageurs me regardent choqués, je risque de leur refiler mon virus. Suis-je vacciné? Les éternuements sont suspects, je m'empresse de renifler à sec. Vous n'imaginez pas, là encore, écrire quelque chose dont on voudrait qu'il passe dans le passé maintenant d'ailleurs.
Exactement, hein, mais bon. Non mais j'ai pas été aussi fort que Jean-Marie, j'ai pas mis le mot corona, j'ai pas eu... Mais c'est vrai que de toute façon, dès qu'on éternue, que ça soit aujourd'hui ou hier... dans un wagon, dans un espace public, tout le monde nous regarde. Et donc cette imagination-là était un peu facile. Mais je ne sais pas si dans le fait d'écrire, il n'y a pas une dimension prophétique finalement, parce que tout est là, tout existe. Et oui, c'est effrayant, oui. Je trouve.
Je sais que c'est faux, mais on ne peut pas s'empêcher cette superstition.
Bah, en tout cas, quand ça arrive et que vous savez que vous l'avez écrit, il y a un moment de...
Ça fait un petit choc quand même.
De surprise quand même, non ?
Voire de vertige. De surprise et de gêne et de vertige. Je dis, oh là là, j'aurais dû peut-être me taire, mais en fait, quand on écrit, on ne doit pas se taire.
Vous n'êtes pas responsable.
C'est pas de la faute, donc...
Puis, ne nous entraînez pas dans ce monde aseptisé du petit polémiste, malgré tout.
C'est exactement, donc il faut se lâcher, puis tant pis pour les conséquences, quoi, finalement.
Pour vous, le confinement, c'était
horrible.
De l'écriture, de la lecture?
Non, parce que j'avais terminé mon livre et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et c'était un livre qui devait sortir en avril et qui a été repoussé à la rentrée littéraire. Et non, mais le fait d'être confiné, dans le mot confinement, déjà, c'est une souffrance totale, quoi. Fallait sortir avec des attestations. Enfin, là, du coup, j'avais l'impression d'être dans mon livre
dans
et avoir
roman.
Des dérogations, ne pas se tromper dans les cases. Je ne savais pas dans quel monde je vivais. Et puis, ne pas voir le visage des gens, ce masque qu'on porte en permanence. Non, mais c'est quand même difficile. Et puis, l'être humain s'habitue à tout, même à l'impossible. C'est incroyable, quand même.
Mm-hmm.
C'est triste, qu'on s'habitue à tout.
Mais là, vous croyez qu'on va s'habituer au masque?
Ben, j'espère pas, le porter, des fois, mais j'ai des visions cauchemardesques. Je me dis, mais ça peut durer des années. Ils ne sont pas du tout... Donc, je suis assez pessimiste sur cette histoire.
Mais
finalement.
Vous n'allez pas écrire un roman sur le masque?
Non. Le prochain roman, je vais écrire un roman triste. Comme ça, ça sera prophétique.
Ça sera notre bonheur. Jean-Marie Blas de Robles, pareil aussi. Vous avez aussi ce sentiment d'écrire sur autre chose que ce qui nous arrive là? Ou c'est un...
Oui, c'est jamais mon propos d'écrire sur...
Voilà, vous avez toujours vos...
Pour moi, la littérature n'est
votre
pas...
Votre monde.
N'est pas un, n'a pas pour but d'être le reflet de...
De l'actualité.
De l'actualité. Donc, moi, je suis dans la fiction, dans le fait de me raconter des histoires, de les raconter aux autres. Et puis, et comme toute histoire, comme toute fable, ça finit par dire... quelque chose que je suis le premier à espérer découvrir à la fin de mon roman.
Merci à tous les deux romans qu'il faut absolument lire dans cette rentrée littéraire. Le petit polémiste, Ilan Duran-Cohen, paru chez Actes Sud. Ce qu'ici-bas nous sommes de Jean-Marie Blas de Robles chez Zulma. Et puis La route des Balkans de Christine de Mazière chez Sabine Vespizer. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation. Merci à Stéphanie Gallet pour les lectures, Stéphane Bataillon pour la poésie. Merci Ilan Duran-Cohen et merci Jean-Marie Blas de Robles.
Merci à vous.
Pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.